Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous jusqu'à midi, n'oubliez pas, on ouvre les portes à partir de 9h en direct tous les samedis et dimanches. Si vous avez manqué les premiers débats, faut-il être indulgent avec le Paris Saint-Germain? Le tennis a-t-il un problème avec le dopage? On a parlé de cette séquence d'auto-mutilation de Pep Guardiola, du procès de Paul Pogba. N'hésitez pas à aller réécouter ces débats passionnants en podcast. Dans quelques instants, on va opposer l'équipe de France de foot à l'équipe de France de rugby, paraît-il, qu'il ne faut pas le faire. Genre, c'est sale, c'est mal, allez vous laver la bouche. Bon, on va quand même comparer les deux, les copains. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant, elles doivent débattre. Mais quel est le sujet? Allez, un petit tour de table, Fred Weiss.
J'ai pas commencé encore, tu veux pas me couper aussi rapidement.
Pas de basket, hein.
Non, tu me connais pas vraiment. Je vais parler d'Euroleague, donc c'est pas exactement le basket. Spanoulis, le grand joueur de basket Spanoulis est devenu coach de Monaco et Monaco s'est imposé au Panathinaikos. Et je me disais, pourquoi on parlerait pas des anciens très grands joueurs et dans tous les sports qui pourraient devenir de très grands coachs?
Bravo, tu ouvres le débat et tu ne restes pas sur le basket. Genre, est-ce qu'on peut être un grand coach quand on a été un grand joueur?
Exactement.
J'aime bien ça, c'est une bonne proposition. Voilà, mais bon, t'es parti du
basket. Ben, je suis parti du basket, évidemment.
Oui, mais c'est bien. Julien.
Je vais peut-être parler, moi, de nos amis des sports d'hiver, Fourcade, et peut-être Vincent G. Martineau sur la présidence du.
Pour Alpes 2030.
Voilà.
Ah oui, c'est toujours pas décidé. C'est mi-décembre. Hein.
Mais voilà.
Qui sera patron des Jeux,
qui est quand même le grand favori. Ouais. Voilà.
En tout cas, Marie Martineau ferait un bon au niveau salarial, hein, si elle est par rapport au GG du sport.
Ah ouais.
C'est pas sûr.
Ah non, mais tu as
c'est pas dit. Tu connais pas le salaire de Marie ici. Avec
Marie, nous. Je te le souhaite. On va croiser les doigts.
Ta proposition, toi.
Je sais pas. Il paraît qu'il y a un débat sur le golf qui serait, paraît-il, le sport le plus à même d'avoir des maîtresses et que beaucoup de golfeurs utiliseraient justement le prétexte du golf.
Pourquoi tu dis beaucoup? Tous
les golfeurs.
Tous les golfeurs, apparemment.
Le sujet du type.
Si tu me dis, est-ce que c'est un sport où on est susceptible de beaucoup divorcer?
Ouais.
C'est possible.
Ouais.
D'avoir
ouais.
des maîtresses. Peut-être aussi, je sais ouais. pas.
Bah oui, parce que tu pars au golf pendant 4 heures l'après-midi, injoignable sur le.
4 heures. C'est juste la partie.
Ouais.
Il faut y aller.
Je vous vois bien tous les deux avec Bennett, là. Tous les deux.
C'est vrai. On en parlera peut-être ou pas.
C'est un bon débat, quel est le meilleur sport?
D'ailleurs, on va le laisser cacher. Tu vois, je mets je fais un peu comme l'organisme du tennis là, avec le dopage. Je mets ça sous le tapis. Pascal, c'est quoi le débat?
Non, plus sérieusement, moi, je suis sûr qu'on va parler de Formule 1 parce que il y a une déclat de Verstappen qui a pas dû vous échapper. Il a dit, si j'étais au volant d'une McLaren, j'aurais été champion du monde depuis longtemps.
Hélène Donneris a répondu d'ailleurs. Ouais. Bravo Pascal. Ça, c'est du bon boulot. Bon, le débat caché, c'est à 11h30 évidemment, et vous avez peut-être raison, ou pas. Groucho Marx a dit un jour, je vous céderai bien ma place, mais elle est occupée.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
C'est fini, c'est terminé. L'équipe de France manque totalement sa rentrée. Si c'est la bonne, c'est la fin du match et tous les Israéliens sur le banc des remplaçants sont tous en train de se féliciter. La France fait match nul 0-0 contre l'Israël.
C'est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu'on s'est procurées.
Ok, je t'accorde 30 de mes putains de secondes, fais-moi vibrer.
C'est terminé, victoire de l'équipe de France pour ce premier test face au Japon 52-12.
Oh, j'ai une pêche les gars, wouh.
C'est terminé, la France t'emporte 30-29. Bel exploit des Français.
C'est génial.
C'est terminé, victoire de l'équipe de France 37-23. Le bilan est très positif avec ses 3 victoires en tour de match à l'automne.
Quand Chan n'est pas là, les souris dansent.
C'est une réflexion qui commence à bruisser en plein mois de novembre, au moment où nos équipes de France, de foot, de rugby, hasard du calendrier, ont quasiment joué en même temps. Un contraste est alors apparu à 48 heures d'intervalle, saisissant ce contraste. Un France-Israël, morose, tendu, pour les raisons que l'on connaît, un jeudi, allait laisser la place à un France-Nouvelle-Zélande, exaltant, passionnant. un samedi. Comme si les déçus du foot se tournaient alors vers le rugby pour enfin assister à un spectacle, pour enfin vibrer avec une équipe nationale. Les chiffres d'audience le prouvent. Carton pour le 15 de France, faible, assez faible, pour les hommes de Didier Deschamps. La musique qui fout les jetons, et cette question. Et même si certains spécialistes nous disent ah, il faut pas opposer les deux, c'est mal, bah, c'est pas bien ce que vous faites, le foot, le rugby, il n'y a rien à voir, tout ça. Bref, on va quand même le faire. Le 15 de France, peut-il prendre la place de l'équipe de France de foot? Oui ou non? Pascal Duprat.
Bien évidemment que non.
Bien évidemment que non. Christophe Cessieux.
Je pense que oui. Okay. De manière ponctuelle. Je dis pas sur un long terme, mais de manière
alors
ponctuelle.
Alors ça, c'est vraiment la réponse. Je l'ai lu hier. C'est vraiment la réponse bidon, mais par excellence. Ponctuellement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Garde tes arguments, là. Garde tes arguments. Bah, parce que tu vas en avoir bien besoin, mon Pascal.
Tranquillement. Ouais. Julien Beneteau.
Hors Coupe du Monde et Euro, oui.
Ouais, pareil que ouais, Christophe.
En gros, grosse compétition, oui, quoi.
Ok, mais. Je vous demande des oui et des non, mais je sais qu'il y a des nuances.
L'euro l'été dernier a passionné le pays.
Non,
non. En tout cas, ça fait débat. Bon, j'arrive dans quelques instants. On va tout de suite accueillir notre spécialiste rugby. Oui, on a
choisi
rugby.
Là,
Pierre Thévenet.
Il est dans notre poche, là. J'espère.
Pour nous dire que les chiffres le prouvent, l'emballement était du côté des sangliers en ce mois de novembre.
Oui, énorme carton populaire que cette tournée de novembre. Déjà dans le stade, les trois affiches face au Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine ont réuni au total 193 260 personnes. C'est un record. Habituellement dans ces tournées, il y a un match qui est joué en région. Donc ça explique aussi ce très bon chiffre. Et puis les audiences, t'en parlais, j'y sais, sont excellentes. 4,3 millions en moyenne face au Japon, 7,3 millions face à la Nouvelle-Zélande et 6,7 millions face à l'Argentine. Pour ces matchs diffusé sur TF1. À titre de comparaison, le match entre la France et l'Italie en Ligue des Nations n'a rassemblé que 5,14 millions de personnes.
Et Pierre, ces différences d'audience ont aussi une explication mécanique.
Oui, c'est ce que dit le directeur des sports de TF1, Julien Mireux, qui était dans les colonnes du Midi Olympique hier. Il explique que ça a beaucoup à voir avec l'heure de diffusion. 21h10 pour le rugby, pile sur le pic de téléspectateurs, quand les matchs de foot démarrent souvent à 20h45. Le rugby s'adapte aux diffuseurs plus que le foot ne le fait. Mais globalement, le rugby est un sport qui rassemble énormément de monde devant la télé. Certes, ce n'est que le 10e sport en termes de licenciés, derrière ton golf, JC notamment, mais les cartons d'audience
et le basket,
c'était beaucoup plus haut. Mais les cartons d'audience sont fréquents. Le quart de finale de Coupe du Monde de rugby entre la France et l'Afrique du Sud avait rassemblé 16,5 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est pas si loin derrière le quart de finale de Coupe du Monde de foot, France-Angleterre, qui avait cartonné à 17,7 millions. Il faut rajouter à ça l'impossibilité pour beaucoup de suivre le foot cette année quotidiennement via DAZN. Et l'affiche de Top 14 fait souvent plus de téléspectateurs le dimanche soir, si on enlève bien sûr le piratage. On peut aussi parler du phénomène Dupont qui surfe sur ses JO, qui continue de briller et de faire briller les Bleus, à l'inverse de la grande star du foot Kylian Mbappé en ce moment. Tout ça fait que, je cite Florian Grill, invité de Bartoli Time la semaine dernière, les frontières sont en train de bouger.
Les frontières sont en train de bouger. Peuvent-ils vraiment se déplacer, ces frontières? Merci Pierre Thévenet. Ça fait beaucoup rire.
C'est les certitudes des footeux là.
Le sentiment sûr de la force de leur sport
qui nous dédaigne comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit moucheron là? On va le dégager, le moucheron du rugby.
Tu t'adresses à un passionné de rugby. Je suis passionné de rugby. Donc, comme le disent certains, moi je trouve stupide que vous nous opposiez. Mais bon, Jean-Christophe, tu es quelqu'un d'éminemment intelligent, donc j'ai pas dit la stupidité, c'est pas pour toi. Il faut que tu fasses de l'audience. Et je le comprends. Et je le comprends bien. Ok.
Merci, cher Pascal. Ce que je
voulais dire, tout simplement, c'est que le rugby a le droit d'exister, de progresser. Et le football a le droit aussi de, par moment, par période, par séquence, en fonction de sa conjoncture sportive, de nous fatiguer un peu, pour ceux qui ne sont pas des férules ou complètement supporters du foot. Donc oui, et nous sommes à une période où le foot, pour les raisons que vous avez évoquées, mais il y en a d'autres, celle où on organise, où on espère, où on anticipe la fin de Deschamps tellement il nous insupporte. Ça, c'est bien agrémenté par la presse et par les journalistes, mais vous faites votre travail. Et aussi par les performances quelquefois un peu, comment dire...
Fan.
UEFA de l'équipe de France. Donc tout ceci participe au fait que on arrive à saturation du foot. Il y a aussi les prises de position très très déplacées des joueurs vedettes tels Mbappé par exemple pour les élections c'était
législatives.
Voilà, c'est vrai que ça fait un peu désordre. On voit pas beaucoup de rugbyman s'exprimer sur le sujet à chaque fois. Donc les rugbyman sont plus malins, sont moins ouverts, sont plus respectueux.
En fait, Pascal, c'est
conjoncturel. Je vais te dire l'argument fatal.
Ouais, mais attention,
dès lors que Didier Deschamps va quitter l'équipe de France, ce qui ne saurait tarder. Quelques années, soyez patients, arrivera Zinedine Zidane et on en reparlera tous ensemble de ce désamour pour le football à la télé ou que sais-je, dans les tribunes. Dans les tribunes, mis à part, vous m'avez pris l'exemple de France-Israël.
Non, on l'a rappelé, le contexte.
Évidemment. C'est un peu.
Il n'y avait pas de trahison.
Donc,
de pensée.
La conjoncture fait que les rugbyman, grignotent un peu. Pascal. Et en plus, ils sont extrêmement adroits, les rugbyman, parce que on se rappelle déjà plus des scandales. On peut pas dire autrement de l'été. Ils ont cette solidarité.
C'est pas qu'ils sont à droite, c'est que ça a été. On en a parlé il y a récemment
dans les grandes gueules.
Et leur image a pas été ternie. Plus que ça, parce que
ça n'imprime pas, ça n'impacte pas auprès du grand public.
Non, mais ça imprime, mais ça a été géré assez bien.
Ça n'imprime pas. Et on avait déjà eu ce débat.
Est-ce que l'affaire Mendy a imprimé auprès du grand public? Est-ce qu'on se souvient que ce champion du monde avec les Bleus,
il n'était pas avec l'équipe de France, Mendy.
Quoi? Il n'était pas joueur de l'équipe de France? L'affaire Mbappé qui a disparu? Je veux dire, des patates chaudes, chaque sport entraîne dans son camp. Évidemment, ça dure un moment et ensuite, la population oublie parce que la population a envie de rêver, de voir du spectacle.
Ça plus vite qu'on sait le rugby que quand c'est un autre sport.
C'est quoi ça?
Mais bien sûr que si. Il suffit de quelques bons résultats. On en a parlé.
Toutes les semaines dans les grandes gueules du sport.
Deux, trois bagarres en sortie de mêlée. Et depuis, on en a plus.
C'est complètement oublié.
Cette affaire Pogba, cet entourage venimeux autour des footeux, est-ce que ça va imprimer? Est-ce que vous pensez qu'on va en parler encore pendant six mois?
Tu penses que l'affaire Mbappé a pas impacté un petit peu aussi l'équipe de France de foot?
Non, j'ai pas l'impression, surtout impacté lui.
Mais c'est des fausses excuses pour le football.
Attention, la Ligue des Nations, ça n'intéresse personne. Arrêtez un peu.
Les gens s'intéressent plus aux matchs amicaux de l'équipe de France de rugby qu'à la Ligue des Nations.
Quand la Nouvelle-Zélande organise un match à Paris entre la France et le Brésil, et tu verras s'il y a personne.
France-Italie, c'est pas un match important pour toi, Pascal? C'est pas le nec plus ultra en termes de foot européen,
avec un France-Allemagne,
je suis désolé, c'est les adversaires quand même que tu rêves le plus de battre, comme la France et l'Angleterre en rugby.
Force est de constater qu'on n'a pas joué l'Allemagne, on a joué l'Israël.
Je te parle de l'Italie, mais c'était en Italie.
Combien il y avait de personnes devant la télé? Je crois 6 millions. C'est pas un match amical, c'est un match de Ligue des Nations. France-Black, c'était un match amical,
Pascal. Là, je suis d'accord avec toi.
Même si dans le rugby, on est bien d'accord, tu sais, ce sont des tests matchs. Oui, il te chauffe un petit peu, mais tu connais Pascal. Les arguments sur, peut-être que le rugby, il y a une place à prendre.
Il y a une place à prendre parce que, comme le disait Pascal, ils sont malins, parce que ils passionnent les foules, parce que je pense que cette équipe de France ressemble peut-être plus à la France de province. Je pense que Madame Michu, elle est plus, enfin, ou Monsieur Michu plutôt.
Madame aussi. Non, mais il y a beaucoup de public féminin au rugby.
Elle apprécie plus Captain Dupont que Captain Konaté, qui arrive avec ses tenues excentriques et ses tenues de créateur à Clairefontaine. Il y a aussi ça, comment tu appréhendes les choses, comment tu vois les gens.
Et j'ai aussi d'autres explications qui sont aussi.
Attends, Pascal, lâche la balle un peu. J'arrive dans quelques instants.
Alors évidemment, je pense que ce sera que ponctuel. Et Pascal a raison de dire que lorsqu'il y aura un nouveau sélectionneur, lorsqu'on retrouvera des stars, lorsque Mbappé remettra un pied devant l'autre, qu'on aura remplacé les Griezmann, les Giroud qui faisaient rêver les Français, peut-être que le foot retrouvera sa place. Parce qu'évidemment, comment tu peux lutter un sport qui a 200 000 licenciés contre un sport qui en a 2 millions c'est David et Goliath. Mais en tous les cas, le petit Laville, il est en train de vous chatouiller les pieds, mon Pascal. Et il va falloir sérieusement Christophe. Que vous vous réveilliez. Parce que si vous continuez de donner cette image déplorable de cette équipe qui n'a aucune âme, de cette équipe qui ne produit aucun spectacle, qui ne marque aucun but, eh bien les rugbyman, un jour, vont vous passer devant. Parce que les gens ont besoin de spectacle, ont besoin de rêver. Je suis désolé, mais ce qui s'est passé lors de France All Black, je ne parle pas du match, mais l'avant-match, comme le spectacle, ils étaient aussi sur le terrain avant le début de la partie. Donc, est-ce que ça, les footeux sont capables aujourd'hui de redonner un peu d'allant et de pas rester installés avec leur laurier? Moi, j'ai pas l'impression. Le foot, il s'est installé et il est en train de vivre pépère. Mais il va falloir se réveiller un jour, les gars, parce qu'autrement, vous allez vous faire bouffer, quoi.
Julien Beneteau.
Parce que c'est un événement et c'est un événement. Un test match au rugby, c'est un événement. Tu joues pour l'équipe de France au rugby, c'est un événement. Les joueurs en parlent, le sélectionneur en parle, il prépare quelque chose. Les joueurs de foot, quand ils jouent en équipe de France, quand il y a des rassemblements, mais c'est un discours latent. Quand il y a des rassemblements au mois de septembre, c'est encore trop de matchs, c'est un match de plus, on est là, c'est un match qui compte pas, etc. Il y a ça aussi. Et donc, du coup, on banalise de jouer pour l'équipe de France au football beaucoup plus. Mais je les comprends. Mais c'est un problème plus global. Il y a trop de matchs au football. On voit avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, ça désintéresse le fait qu'il y ait
trop de matchs. C'est plus un événement.
Ça manque d'intérêt. Ça désintéresse de plus en plus de personnes. La visibilité du championnat de France de football contribue aussi au désintérêt de l'équipe nationale, car ça découle.
Alors que le rugby a été très intelligent, avec le même diffuseur,
s'est installé.
Tout le monde regarde le rugby parce que tout le monde sait qu'à telle heure on voit du rugby.
Exactement.
Et puis tu vois les plus grandes stars que tu retrouves en équipe de France.
Et que c'est le meilleur championnat du monde. Que, comme l'a dit Fred, à un moment donné, les présidents de club du top 14 ne sont pas allés vers un autre diffuseur qui proposait plus d'argent, mais ont dit attendez, Canal+, c'est notre diffuseur historique. Regardez ce qu'ils ont fait de nous. Regardez comment on est traité sur leur antenne. Donc, au-delà des matchs, la récurrence, les magazines, on intéresse le public. Et ben, tout ça, aujourd'hui, je pense que l'équipe de France en bénéficie.
Donc, il y a une place à prendre.
Mais évidemment.
Non, il y a une place ponctuelle.
Mais en fait,
mais tu pourras pas jamais lutter contre.
Arrêtez de me parler de sport universel. Je comprends l'argument, mais moi, je parle pas pour est-ce qu'en Chine, on va plus regarder la Ligue 1.
Vous savez quand même, moi, par exemple. Il y a des régions en France où on joue pas au rugby. Donc, tu peux pas lutter. Il y a beaucoup de régions.
Alors, moi, je vous prends un pari. C'est que là, cette année, donc, le tournoi destination, c'est 5 matchs. Allez, on va prendre 4 matchs du tournoi destination et les tests de novembre, 2 tests de novembre, donc ça fait 6 matchs du 15 de France. Sur ces 6 matchs-là, il y aura plus de danse que la majorité des matchs de l'équipe de France de foot.
Mais ils ont un gros avantage aussi, le rugby. C'est que, effectivement, comme c'est pas un sport universel,
si Zidane
ils ont leur meilleur joueur en France, 2026. Que tu peux suivre dans le championnat de France qui est suivi, donc que tu retrouves en équipe de France. Donc forcément, il y a un storytelling, donc forcément, tu as envie de voir ces joueurs évoluer. Et bien sûr, ça marque des points, mais moi, je suis admiratif de ce qu'a fait le rugby. Moi qui suis basketteur et qui, dans les années quasi 2000, ont été quasiment égalité avec le rugby, on est massacré et ils progressent d'année en année parce qu'ils sont super bons.
Alexandre nous appelle au 32-16 et je te redonne la main, Pascal et Christophe. Bonjour Alexandre.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alexandre, le 15 de France peut-il prendre la place de l'équipe de France de foot? Oui ou non?
Non. Pas sur la durée. Parce que le sous-texte de la question, c'est est-ce que ça peut s'installer sur la durée?
Bien sûr.
Cette supériorité? Ben non, je pense pas. C'est le momentum, comme dirait un grand homme de lettres de chez vous.
Ah oui, Vincent Moschetto, il n'arrête pas. Oui.
Parce que les comparaisons entre le football et le rugby, ça a toujours existé. Seulement, c'est ressorti pourquoi? Parce qu'à 2 jours d'intervalle, on a mis à la télé un match dont le principal intérêt, il n'était pas sportif. Il y avait plus de policiers que de spectateurs dans le stade. Et le seul intérêt, c'était est-ce qu'il va y avoir un incident dans une compétition décriée? Et 2 jours après, vous mettez un match, certes, en jeu, mais avec deux des meilleures équipes du monde dans leur sport.
Mais non, mais la comparaison, c'est entre le samedi soir et le dimanche soir. Le samedi soir sur TF1, t'as eu France All Black, et le dimanche soir sur TF1, t'as eu France-Italie. Elle est là, la comparaison. Alors, on va pas comparer avec France-Israël, évidemment, qui était un match complètement bizarre.
Et puis, on juge pas que sur l'audience, on juge aussi sur l'intérêt, sur l'amour que les Français ont envie de donner à leur équipe. Et aujourd'hui, on le sent peut-être par rapport au match.
Comment tu peux quantifier ça, Jean-Christophe, mais l'amour que les gens peuvent donner?
Mais tu perçois quand même quand tu parles. Alors, franchement, Pascal, quand tu parle avec tes amis, que tu vas au bistrot, que tu vas au troquet, que tu vas faire tes courses. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent, mais le match France-Italie, là, mais j'ai même pas allumé ma télé, j'ai pas regardé. Ouais. Et pourtant, c'était en jeu la
alors
première
que,
place
alors
du monde.
Là, j'ai regardé
alors
le
que France,
sur
Nouvelle-Zélande, tout le monde en parle. Ouais, ouais, en fait, tu vois, c'est, alors, je te dis pas que c'est une, forcément alors, c'est... une opinion qui s'accorde pour tout le monde. Je connais pas la France entière, mais il y a une tendance. Non, tu sens pas cette tendance quand on parle
si,
avec les...
Si, je la sens, mais autrement, on fait pas de débat, alors.
Non, c'est pas ça, Pascal. Non, mais après, c'est de savoir si le rugby peut se glisser là, en fait, et peut devenir cette équipe de France avec Antoine Dupont, la tête de gondole, peut arriver à supplanter un peu ces bleus.
On va considérer qu'ils sont au top s'ils avaient été champions du monde.
Bah
en
oui,
France,
mais ils ont. Ah oui. Été c'est la différence avec le foot, c'est okay. Ça.
On va considérer qu'aujourd'hui l'équipe de France a une génération incroyable incarnée par Dupont et tous les Toulousains, entre autres. Ils incarnent un certain esprit du sport. Qu'on incarne moins, ça je vous le reconnais. La grande erreur du foot français, c'est d'être parti de Canal+. Voilà, pour ma part. Je pense qu'on a voulu. C'était alléchant, puisque si on parlait de milliards, c'est ça, à l'époque, de droits télé. Mais de partir de Canal+, ça a fait que le foot est moins vu à la télé. Il y a moins de reportages sur le foot. Et le rugby a su prendre ce bond-là. La deuxième différence, c'est qu'il fait meilleur vivre dans les tribunes du rugby que dans les tribunes du foot.
Complètement
et
d'accord.
Ça, il faut que notre sport éradique une bonne fois pour toutes cette incivilité qui règne dans nos tribunes et qui est le fait de quelques dizaines ou centaines.
Après, sur l'équipe de France, sur les matchs de l'équipe de France, c'est moins le cas quand même, Pascal.
C'est moins le cas pour ce qui est de l'équipe de France.
Mais c'est l'image.
En général, l'équipe de France, ça fait le plein tout le temps. C'est pour ça que vous pouvez pas comparer. C'est l'équipe de France qui joue, ne serait-ce qu'un match amical, si c'est pas contre, comme on l'a dit,
Israël.
Ça fait toujours le plein, l'équipe de France. Et les audiences, pardonnez-moi de vous dire, vous avez beau me dire que c'est une compétition, la Ligue des Nations, ça n'intéresse personne.
Ok, très bien.
C'est tout.
On remercie Alexandre.
Un petit truc, très court, Jean-Christophe. L'intérêt du 15 de France, comment il se traduit? Bah, TF1, ils veulent acheter les droits du tournoi destination. Ouais. Et ça, c'était inenvisageable il y a 10 ans.
Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce débat. Voilà, TF1 qui veut les deux. L'équipe de France de foot, l'équipe de France de rugby, quoique l'équipe de France de foot sera pas mal sur M6, hein, maintenant. Voilà. Avec notamment les deux prochaines Coupes du Monde. Merci Alexandre d'avoir composé le 32-16 dans quelques instants. Le débat caché. Eh oui, je vous ai concocté un petit truc.
Ah, on parle de golf alors?
Non.
De tes après-midi coquines?
Pas du tout.
Comment
à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Julien Benneteau, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. Vous composez le 32-16 et vous venez l'affronter. Elle sera là, évidemment, pour répondre attachée à sa chaise. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Réagir sur l'émotion, sur l'instant, c'est ce que je vous demande, mes chers GG. Avec ce débat caché, le guet-apens du jour, c'est
attention,
ça.
Parfait au tir, le russe Yevgeny Ustyugov remporte la dernière médaille d'or en individuel ici à Vancouver. Le premier titre olympique pour la Russie. Malgré trois pénalités, Martin Fourcade, qui n'est jamais monté sur un podium de Coupe du Monde, décroche une exceptionnelle médaille d'argent. Le Français peut même nourrir des regrets sans ses deux pénalités au premier tir. Il aurait certainement remporté l'or.
Et c'était il y a 14 ans, à Vancouver, la première médaille olympique dans la carrière de Martin Fourcade, de l'argent pour lancer une carrière exceptionnelle, de l'argent qui se transforme en or. Bien des années plus tard, car le champion olympique de cette Mastart, le russe Evgeny Ustyugov, vient d'être déclassé de tous ses résultats entre 2010 et 2014, après des anomalies identifiées dans son passeport biologique. 4 ans de procédure et donc 14 ans après la course, Martin Fourcade devient le nouveau champion olympique de la Mastart en 2010. C'est la 6e médaille d'or olympique de sa carrière. Notre question, notre débat, cette médaille a-t-elle de la valeur ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Oui.
Oui. Fred Weiss.
Bien sûr.
Pascal Duprat.
Oui.
Julien Beneteau.
Évidemment.
Évidemment.
Oui.
C'est vous les sportifs, hein. Mais j'ai quelques doutes. Bref, Julien Richard est avec nous. Il commentait évidemment déjà le biathlon sur RMC. Bonjour Julien.
Salut tout le monde.
Bonjour, on en parle aussi bonjour, parce que c'est le grand début de la saison de biathlon à Kontiolahti. Ça se passe en Finlande. On retrouvera pas Martin Fourcade qui a arrêté sa carrière, mais c'était important d'en parler aujourd'hui. Pourquoi elle a de la valeur ? Pourquoi, bien sûr que oui, Julien Beneteau ?
Parce que sportivement, elle lui a été volée par un tricheur. Alors émotionnellement, aujourd'hui, elle a peut-être moins de saveur et de valeur parce qu'il l'a pas, gagné sur le moment même. Mais sportivement, il est le champion olympique. L'autre a été champion olympique parce qu'il a triché, dopé, donc il y a pas de souci. Et puis, on est dans une époque où beaucoup de gens reçoivent les médailles parce qu'il y a les contrôles antidopage qui se font de plus en plus, etc. Et c'est marrant que tu aies pris ça comme angle, JC, pour ce débat caché, car aux Étoiles du Sport cette semaine, il y avait Martin Fourcade et on a parlé d'actions qu'on avait faites à Paris 2024 à la commission des athlètes, notamment sur le Champions Park pour célébrer les médailles. Et on a profité pour remettre les médailles aux gens et aux athlètes qui n'avaient pas reçu leur médaille à cause du dopage. Et il y a eu 3 ou 4 athlètes qui ont reçu ça. Et quand tu vois l'émotion d'une Éthiopienne qui est devenue suédoise entre-temps, qui a reçu sa médaille 24 ans après, il y en a une qui a reçu sa médaille et elle aurait dû être médaillée en 2000 à Sydney et le temps de l'instruction, etc. Elle a reçu sa médaille là 24 ans après à la place du Trocadéro en larmes, mais je peux vous dire que pour ces athlètes là la médaille, elle avait une vraie valeur et une vraie symbolique. Donc Martin, il devient 6e fois champion olympique parce que quelqu'un suite au dopage d'un Russe. Pour moi, il est sextuple champion olympique et bravo à lui. Et
cette médaille. Ça, ce sont les faits. Personne ne contredit qu'il n'est pas 6 fois champion olympique.
Ça dépend de qui tu parles. Si tu parles pour nous, elle a la même valeur, évidemment, parce que nous, on se rend compte qu'il est 6 fois médaille olympique et 6 fois, il a été le meilleur. Et c'est logique qu'il ait gagné parce qu'effectivement, il y a un mec qui a triché. Mais pour lui, pour moi, c'est pas pareil. T'as pas le même ressenti. Parce que tu montes pas sur le podium, t'as pas la Marseillaise, t'as pas.
Est-ce que pour lui, il se sent médaillé olympique, sachant que ça a été une émotion forte, cette médaille? Mais c'était la première dans son histoire.
C'est la première, mais il l'a reçue, cette médaille. Il a reçu la médaille d'argent. À l'époque, il a 22 ans, je crois, en 2010 à Vancouver. C'est encore un jeune biathlète. À l'époque, c'est son grand frère, Simon, qui est la tête de gondole de l'équipe de France. Et lui, il arrive, décroche cette médaille de manière presque surprenante, un peu inespérée. Et c'est le début de sa grande carrière internationale à Martin. Donc, la médaille d'argent, pour lui, ça a été comme un titre à l'époque. Alors aujourd'hui, qu'elle se transforme en or, je pense pas que ça lui procure plus de plaisir que cela. C'est juste pour l'histoire que ça marque les esprits. Parce que dans 20 ans, nos successeurs, ils regarderont le palmarès, la fiche Wikipédia, je sais pas, qui sera imprimée dans leur cerveau, parce qu'à l'époque, il y aura plus besoin d'ordinateur. Et ils diront 6 fois champion olympique.
Mais c'est pas le sportif français qui en a le plus?
Ben oui.
Si. Sur 3 Jeux olympiques différents.
C'est assez monstrueux. Et dans ce sens-là, c'est énorme. Mais encore une fois, tous ces mecs qui se dopent, ils se rendent pas compte de ce que ça peut enlever comme émotion aux gagnants. Encore une fois, monter sur le podium.
Mais l'émotion, il l'a reçu cette année-là.
Christophe, t'es le théo.
Mais vous allez voir,
je pense que c'est génial,
médaille d'argent. Oui, mais il aurait pu être or, en fait. L'autre avait respecté les règles.
Rappelez-vous de l'émotion ressentie par Martin ce jour.
Ouais, mais regardez, si le comité olympique et le comité d'organisation de Milan Cortina en 2026 aux Jeux Olympiques d'hiver fait bien les choses, il va remonter sur le podium. Et là, il va remonter sur le podium quelques années après avoir pris sa retraite.
C'est pas pareil, là c'est différent.
Et donc du coup, il n'aura plus l'émotion, il n'aura plus l'habitude de ses émotions.
Ouais.
Et quand on va lui remettre la médaille d'or autour du cou, je suis sûr qu'il aura une émotion.
Ou alors il peut se faire fort. Il peut s'organiser pour lui-même en 2030.
En 2030, il s'organise
pour le patron du Cojo, il se monte sur son podium.
Non mais c'est très intéressant, Pascal, sur ce débat, parce que évidemment, je savais qu'on ferait ce débat caché, vu que c'est moi qui vous le donne. Et donc j'ai regardé la course. Et j'ai revu la. Parfois ils sont cachés pour moi aussi, mais là en l'occurrence non. J'ai revu cette course et cette cette fin de course, c'est Martin Fourcade qui termine deuxième à 7 secondes du Russe, hein. C'est-à-dire qu'il peut être dégoûté de pas avoir. Il lève les bras, il est content comme mais un gamin.
Comme s'il avait gagné.
Exact, comme s'il avait gagné, Pascal. Ouais.
Non, mais moi, déjà, l'honneur est sauf, l'honneur du sport, la probité. Donc, tant mieux qu'il ait retrouvé cette médaille-là. Tant mieux qu'on ait, comment dire, chopé le tricheur. Mais comme le dit Julien, s'il y a une cérémonie, comment dire, protocolaire qui est organisée, alors il vivra des émotions peut-être certainement pas comparables avec le fait de se voir remettre la médaille d'or sur le podium en live après ton exploit.
Oui, ce sera différent, mais incroyable.
Mais ça sera une émotion quand même. Et puis aussi, j'imagine que quand il va voir que sur son palmarès, qu'il y a une médaille qui est ajoutée, c'est une fierté non dissimulée, ça c'est certain, même s'il a l'habitude des exploits et des médailles.
Julien Richard est donc avec nous. Julien, toi qui connais bien Martin Fourcade, cette médaille d'argent, et on l'a rappelé, ça a été fondateur pour lui.
Et on en a beaucoup parlé avec lui, ça fait quand même 4 ans que ça traîne cette histoire. Il sait qu'il va récupérer cette médaille d'or. Mais pour lui, c'est un peu bizarre, parce qu'il dit, c'est, pour moi, cette médaille d'argent, ça a été un moment fondateur pour ma carrière. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que sur le podium, il voit son frère Simon, qui était le favori à l'époque, qui était en larmes. Donc ça a créé quelque chose de très fort. Et il dit, qu'est-ce qui se serait passé?
De déception.
De déception,
lui.
Et oui. De voir son frère. En plus, lui qui est lui et qui est à sa place, et que ça aurait dû être l'inverse.
Ça a été un moment fondateur. S'il avait été en or, il aurait peut-être gagné moins de choses après.
Il le dit. Qu'aurait été ma carrière si j'avais été champion olympique?
Tout de suite.
Ouais. Est-ce que ma carrière aurait été aussi longue, aurait été aussi prolifique? Il n'a pas la réponse. Donc c'est quand même
donc ça change quelque chose, change mais quelque chose. C'est peut-être bien que cette histoire se soit passée comme ça, si on parlait de probité, peut-être que pour lui en tout cas ça lui a donné de la hargne pour aller chercher tous ces titres olympiques, et c'était intéressant d'en parler avec vous. Julien Richard, tu es avec nous aussi pour nous parler de cette nouvelle saison. Ça débute à Kontiolahti, c'est en Finlande aujourd'hui. Quel est le programme?
On a deux relais mixtes. Vous savez qu'il y a le relais mixte simple où il y a que deux biathlètes, un garçon et une fille, et puis le relais mixte classique, deux filles, deux garçons. 13h15 pour le premier relais mixte avec Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet, et le relais mixte à 15h45, Loujean Monod, Justine Brezaz-Boucher, Éric Perrault, Emilien Jacquelin. Ce qu'on attend de cette saison, c'est le réveil des garçons. Ça a été compliqué la saison dernière, et en revanche les filles, elles ont flambé, elles ont battu tous les records de podium. Il y a trois filles qui sont capables de décrocher le gros globe de cristal dans cette équipe de France, donc il y aura beaucoup de spectacles.
Johannes Bö existe toujours?
Johannes Bö arrêtera sa carrière en 2026. Évidemment, c'est l'homme que tout le monde veut battre cette saison chez les garçons.
Ok, bon, on suivra saison avec toi, évidemment, le Norvégien, on suivra avec toi cette saison. Merci beaucoup, Julien Richard, d'avoir été avec nous pour ce débat caché. 11h43, on se retrouve dans quelques instants.
On parle de golf, je suis un peu déçu.
Oui, on en reparlera pendant la pub, peut-être, malheureusement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour régler certains comptes avec vous, les copains. À tout de suite sur RMC, on vous attend au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Dans l'histoire et dans l'histoire du rugby.
Les grandes gueules du sport.
Bon, il les remet dans le match. C'est tout à l'honneur c'est tout à son honneur.
Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, vous voulez affronter les GG, mais déjà, il faudrait savoir ce qu'elles veulent dire, évidemment. Nos GG, merci beaucoup à la production, voilà, de leur mettre
Alban,
une petite quiche.
Couper la tête. Hein.
Voilà, Alban Azaïs, notre excellent réalisateur de cette émission. Merci beaucoup, mon cher Alban, et Maxime Abolin à la production. Alors, nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. Sachez, jusqu'à midi, il y aura les paris RMC avec toute la Dream Team des paris. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport, et vous.
Pascal nous appelle, peut-être pour Pascal Duprat d'ailleurs. Pascal, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Pascal, comment allez-vous déjà, Pascal? Tout va bien?
Ça va très bien, très heureux et très ému d'être parmi vous dans cette émission que j'adore.
Eh ben, voilà. Nous t'accueillons avec grand plaisir et merci pour la fidélité, pour le message positif. Pascal, tu vas affronter Pascal ou quelqu'un d'autre?
Moi, plutôt Julien. Voilà, je suis dans le tennis, donc je voudrais parler avec Julien, ça me ferait hyper plaisir. Voilà.
Très bien. Alors, on rappelle le débat tennis. C'était le tennis. A-t-il un problème avec le dopage après cette affaire Iga Świątek, numéro 2 mondial, quintuple vainqueur de Grand Chelem. Réécoutons ce que disait Julien tout à l'heure.
Quand on pose la question, le tennis a-t-il un problème avec le dopage, on peut se dire, tiens, est-ce que ça veut dire qu'une partie des 100 premiers mondiaux est dopée, que l'ATP, la WTA camoufle tous les joueurs positifs, qu'il y a un vrai système organisé, etc. Ça, c'est impossible.
Pascal, Julien t'entend.
Oui, bonjour. Julien, je vais donner mon petit pédigré. Voilà, je suis éducateur de tennis depuis 50 ans. Le tennis, c'est ma passion. J'ai commencé à Plaisance du Touche avec un certain Laurent Recoudert, qui était finaliste Roland-Garros Junior.
Ouais.
Moi, j'adore mon sport. Je suis passionné. Je bouffe du tennis. Je mange tennis. Mais ce que je trouve, c'est que dans ces affaires, on cache beaucoup les choses. On essaye d'étouffer les affaires. On essaye d'avoir un sport propre de gentleman, entre guillemets, mais il y a beaucoup d'affaires, je trouve, en ce moment, ça nous dessert. Moi, j'essaye aux enfants de leur faire passer une image vraiment positive, collective. Mais voilà, moi, pourtant, j'adore ce sport, j'adore mon sport, mais il y a du dopage. Voilà, le dopage, il existe et il faut pas le nier. Voilà, et chaque fois que j'entends une histoire, on n'entend plus parler, comme l'affaire Sinner et tout, je sais plus où ça en est. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin, c'est mon sentiment, quoi.
Non, bah Pascal, je comprends ton désarroi, un petit peu ta déception, ce que tu dis, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure à l'antenne, c'est que je sais pas s'ils essayent de camoufler ou de chercher à étouffer les affaires. En tout cas, la communication autour de ces affaires-là est mauvaise et donc. Elle n'est pas bonne pour n'importe quelle partie. Elle n'est pas bonne pour les joueurs ou les joueuses qui sont incriminés, parce que Sinner ou Swiatek, au-delà de leur contrôle positif, dans la manière dont c'est communiqué, dans leur défense, n'en sortent évidemment pas grandi. Et les instances qui sont en responsabilité sur ces sujets-là, de leur part, leur communication, perdent un petit peu aussi en crédibilité. Donc, en fait, c'est un peu du perdant-perdant. Donc, je comprends qu'après, pour les amoureux du tennis comme toi, qui sont un petit peu à l'extérieur de tout ça, soit pas dégoûté, mais oui, viennent à douter de la probité des instances et de la véracité de ce qu'ils peuvent communiquer.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Julien. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais de retour, on ne sait pas le vrai fond des choses, donc ça reste toujours en suspens. Moi, c'est ça qui dessert un petit peu notre sport qu'on adore, c'est ça, quoi.
Ouais, mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que soit on apprend des choses très tard, a posteriori, soit on apprend qu'on nous a menti sur la nature du forfait, par exemple, sur certains tournois. Et ça, à terme, c'est quelque chose qui va complètement desservir.
Et ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal.
Ça va desservir le tennis et les fans.
Et vous êtes d'accord, c'est ça. Et écoutez bien, les GG, hein, c'est ça un débat de gentleman entre deux personnes qui adorent le tennis. Bah, oui, elles ne sont pas d'accord, mais vous voyez, Pascal, Julien.
Ça se passe pas comme ça.
Merci beaucoup. Non, c'est Pascal. Non, c'est à moi. Oui, Pascal. Oui, oui.
Comme le golf.
Jean-Christophe.
Échanger les 06.
Oui, Pascal.
Oui, Jean-Christophe, je voulais juste remercier en tant que supporter du Stade Toulousain du TFC, Monsieur Duprat, pour l'année exceptionnelle quand nous sommes restés en première division, qui nous a fait vivre. J'ai vécu beaucoup de moments de sport dans ma vie et c'était un des grands moments de sport cette soirée-là. Je m'en rappellerai toute ma vie.
Merci, c'est
voilà.
Voilà, bravo, gentleman.
Voilà.
Bravo, bravo joueur.
À Toulouse. Merci beaucoup.
Il a laissé une trace, Monsieur Duprat.
Voilà. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Il y a Didier qui nous appelle aussi. Bonjour, Didier.
Bonjour à toute l'équipe.
Didier, bonjour, tu vas prendre qui?
Monsieur Duprat.
Ah,
j'étais sûr.
Sur quel sujet?
Oui, quand même, avec toutes les inepties qu'il a sorties pendant toute l'émission.
Le rugby versus le foot?
Bah oui.
Ok, on va réécouter ce que disait Pascal tout à l'heure.
Quand la Nouvelle-Zélande organise un match à Paris entre la France et le Brésil, et tu verras s'il n'y a personne.
Voilà, c'était chaud, allez réécouter ça tranquille en podcast. Didier, tu veux dire quoi, Pascal? Il t'écoute.
Alors j'en ai tellement à dire. Alors, en premier lieu, je vais un peu mon pédigré. Donc, je suis supporter de foot à la base, supporter du RC Lens. Voilà, donc très fan du RC Lens. Maintenant, il y a un consultant chez vous que j'adore, Emmanuel Petit, qui est passé à l'after mardi ou mercredi, je sais plus, avec Daniel, et qui a résumé parfaitement ce qui se passait dans le foot en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'émotion. Il a dit qu'il n'y a plus d'émotion pour le PSG et pour le foot. Et j'en suis exactement là. Et je pense ne pas être le seul. On voit le Parc des Princes qui se vide. Ça se remplit plus. Ça s'est pas rempli contre Toulouse. Ça s'est pas rempli contre le match avant. Contre Nantes ce soir, ça sera pareil. Et moi, vous voyez, par exemple, ce soir, il y a un PSG Nantes. Et ben moi, je regardais la fiche du top 14. Au même moment sur le canal. Et dimanche, il y a Marseille et Monaco. Pourtant, c'est pas un match bidon, a priori. Parce que bon, après, eh ben, j'ai regardé également la fiche du top 14 du rugby. Pour moi, le rugby, c'est l'émotion. Ils ont su, voilà, ça procure quelque chose. Vous savez, les joueurs de foot ont fait énormément de tort. Là, quand on voit l'équipe de France, le rassemblement, ils pensent d'abord à faire un défilé plutôt que de commencer à jouer. Moi, les années frissons, c'est des années 70-80. Il y avait des joueurs frissons, Cruyff, Platini, tout ça. Il y avait de l'émotion à cette époque-là. Bon, j'ai 63 ans. Hein. Il y avait de l'émotion. Il n'y en a plus. Et je peux vous garantir que moi, je suis bénévole dans un club de foot de ma commune. Et ici, c'est Nantes. Hein. Moi, je suis en Vendée, donc ici, les supporters, c'est Nantes. Et je peux vous garantir que l'émotion, elle n'y est plus dans ces années.
Ils préfèrent La Rochelle, maintenant, les Vendéens, non? Ils préfèrent le Stade Rochelet?
Ah oui, mais ça en parlant du rugby, mais moi on parle du foot. Et dernier point là, parce que Monsieur Duprat a attaqué directement Billantet sur le rugbyman et leurs histoires. Je suis désolé, mais enfin bon, Hakimi, Ben Yedder, Mbappé, Mendy, je continue ou j'arrête?
Non, mais je vais vous répondre quand même.
Bah vas-y Pascal.
Vous pouvez continuer.
Non, mais le problème, Didier, vous êtes parfait, on va vous engager de grande gueule.
Sauf le respect que je vous dois, j'adore le rugby, je vous le répète. Et on parlait, le sujet était les équipes de France de rugby et de football et non pas les championnats nationaux. Donc vous êtes hors sujet, c'est dommage, mais c'est pas grave. Et pour vous répondre, je pense sincèrement que c'est ponctuel. Parce que justement, l'équipe de France de football, avec ses défilés, ses attitudes, Mbappé qui prend la parole à tour de bras, Deschamps qui est sacrifié à l'autel du futur sélectionneur que sera Zidane, tout ceci ponctuellement fait que le rugby, eh bien, gratte. Et aussi, on doit le reconnaître, le mérite en revient aux dirigeants du rugby qui savent faire et aux rugbyman qui savent se comporter. Ça, certainement. Mais le football reprendra sa place très vite, dès lors que Zidane sera aux commandes. Et dès lors, j'ai même envie de dire que l'équipe de France sera dans des compétitions importantes, comme la Coupe du Monde.
Comme il veut virer Deschamps, Pascal Duprat, quand
justement, il est contre ça, justement, et il a dit tout le bien qu'il pensait de Didier Deschamps à longueur d'émission. Même si on pourrait croire que non.
Ah ouais, mais ses paroles,
il l'a dit, soyez-en convaincus.
C'est pas fraternel, moi, je trouve.
Il nous reproche.
Non, moi, j'aimerais qu'il aille dans une autre sélection pour concurrencer l'équipe de France.
Merci Didier d'avoir été avec nous. Vous étiez extrêmement nombreux à nous appeler. Didier. Pardonnez-nous, on n'a pas pu passer tout le monde, mais n'hésitez pas à nous réécouter, à nous rappeler au 32-16, car c'est aussi votre émission, mes chers auditeurs. Merci beaucoup Christophe, merci Fred, merci Julien. Merci Pascal.
Merci à tous.
Demain, à partir de 9h pour les Grandes Gueules du Sport, et la semaine prochaine, nous serons en direct de l'Alpe d'Huez. Et juste vous dire un mot, parce que sachez que les GG de la semaine, eh bien, sont en déplacement tout ce week-end. Eh bien, nos amis Alain et Olivier sont en ce moment à Roquebrune Cap-Martin pour au salon du livre.
Ils ont bien
la
vie.
Ils
sont dans la villa d'Alain tranquille sur la Côte d'Azur. Voilà. Tout va bien. Ouais.
Allez les voir, les GG de la semaine, c'est aussi important. Allez, on vous embrasse et tout de suite les Paris RMC.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.